Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran. Au nom de Dieu, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Recueillons-nous pour quelques instants et méditons ensemble sur les versets 12 à 21 de la Sainte Sourate Layl. Nous vous en présenterons tout d'abord la lecture chantée et ensuite la traduction.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلى
وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى صدق الله.
Certes, oui, à nous de guider. Certes, oui, et à nous l'au-delà et le présent. Je vous ai donc averti d'un feu qui flambe, où ne tombera que le très malheureux, et celui-là même qui crie au mensonge et tourne le dos, alors quand sera écarté le pieux, celui-là même qui donne ses biens pour se purifier, sans que personne lui ait fait un bien dont ce soit la récompense, mais pour la seule recherche du visage de son Seigneur le Très-Haut. Et certes, il va bientôt agréer.
Thank you. Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Mesdames, Messieurs, chers amis auditeurs, bonsoir. Nous sommes le mercredi 20 mars 2024. J'ai le grand plaisir de vous présenter dans quelques instants le journal d'information, suivi d'un commentaire politique. Vous aurez ensuite la seconde partie de cette émission. Merci de votre écoute. Restez avec nous. Le leader de la révolution islamique a désigné le nouvel an persan comme l'année de l'essor de la production via la contribution du peuple. L'aéroport israélien Ben Gurion deux fois ciblé en une semaine. Et le Niger exige un calendrier de retrait des troupes US. C'était les principaux titres, en voici le journal. Le leader de la révolution islamique, l'Ayatollah Sayyed Ali Khamenei, a désigné le nouvel an persan comme l'année de l'essor de la production via la contribution du peuple. Comme toutes les années précédentes, le leader de la révolution islamique, l'Ayatollah Sayyed Ali Khamenei, a prononcé un discours à l'occasion de Nowruz, le nouvel an iranien, en passant en revue les événements phares de l'année passée et souhaitant succès et bénédiction pour le peuple iranien en cette nouvelle année 1403. Voici un extrait du message de l'Ayatollah Sayyed Ali Khamenei. Au nom d'Allah, le très miséricordieux, le tout miséricordieux, ô toi qui fais évoluer les cœurs et les regards, ô toi qui administre l'alternance du jour et de la nuit, ô toi qui transforme les circonstances et les états d'âme, change notre état en le meilleur des états. Je présente mes félicitations à toute la chère nation iranienne à l'occasion de la fête de Nowruz et du Nouvel An qui coïncide cette année avec le mois béni de Ramadan, ce printemps des cœurs et de la spiritualité. Je tiens à féliciter en particulier les familles des anciens combattants ainsi que la nation qui célèbre le Nowruz. Je rends également hommage aux chers martyrs et à l'imam des martyrs, l'imam Khomeini, qui a ouvert cette voie à la nation iranienne. Je souhaite que la nation iranienne profite des deux printemps qu'elle connaît actuellement, à savoir le printemps de la nature et le printemps de la spiritualité. Le président iranien Ebrahim Raisi a appelé à prendre des mesures concrètes et sérieuses pour mettre fin aux attaques du régime israélien contre Gaza dans son message à l'occasion de Nowruz, le nouvel an iranien. Le président iranien a noté dans son message que Nowruz est un symbole de réconciliation qui apporte un message de paix et de coexistence pacifique. Cette année, nous, les pays de la zone de civilisation de Nowruz, célébrons cette occasion propice alors que le peuple opprimé de Gaza est toujours confronté aux attaques brutales du régime sioniste usurpateur et qu'il est menacé de famine en subissant un siège complet, a déclaré Raisi. Il est de notre devoir humain d'utiliser nos capacités pour prendre des mesures concrètes et sérieuses afin de mettre fin aux attaques du régime sioniste et d'envoyer une aide humanitaire au peuple opprimé de Gaza, a-t-il déclaré dans le message adressé aux dirigeants et aux nations des pays célébrant cet événement d'origine persane. Chers amis, Nowruz est une célébration des nouveaux départs, le début d'une nouvelle année, l'arrivée du printemps et la renaissance de la nature. Il rassemble des millions de personnes à travers les générations et les nations. En ces temps de grands défis, Nowruz promeut le dialogue, le bon voisinage et la réconciliation. Il renforce les objectifs et les valeurs des Nations Unies, la paix, les droits de l'homme et la dignité. Alors, laissons-nous tous guider par l'esprit de Norus. Trouvons la force de combler les fossés, de favoriser l'unité et de nous soutenir mutuellement. Que l'aube du printemps nourrisse de nouvelles graines d'espoir dans nos cœurs. L'espoir que nous pourrons avancer vers un avenir meilleur en tant qu'une seule famille humaine. J'offre mes meilleurs vœux à tous ceux qui célèbrent Norus, qu'il apporte à tous la paix, la santé et le bonheur. L'Organisation mondiale de la santé, OMS, a lancé un sévère avertissement, affirmant qu'un nombre croissant d'enfants à Gaza sont au bord de la mort en raison d'une grave faim. Margaret Harris, représentante de l'OMS, a fait part d'observations pénibles sur le terrain. Ce que les médecins et le personnel médical nous disent, c'est qu'ils constatent de plus en plus les effets de la famine. Ils voient des nouveau-nés mourir simplement parce que leur poids à la naissance est trop faible. S'adressant aux journalistes à Genève, Harris a souligné le besoin urgent d'une intervention nutritionnelle pour sauver ces nouveau-nés. La région, ravagée par la guerre, connaît une augmentation du nombre de femmes enceintes, présentant une insuffisance pondérale dangereuse et demandant des soins médicaux, a-t-elle déploré. Harris a souligné les complications périlleuses résultant de la malnutrition pendant la grossesse, une situation qu'elle attribue uniquement aux ravages de la guerre. Avant le conflit, le système de santé de Gaza était solide et la malnutrition était pratiquement inconnue. Les crises médicales actuelles sont entièrement la conséquence de l'action humaine, a-t-elle affirmé. En réponse à cette urgence humanitaire, l'OMS met activement en place des centres d'urgence et de stabilisation de la malnutrition pour aider les plus vulnérables à Gaza. Cependant, l'initiative est confrontée à des défis importants en raison de problèmes de sécurité et d'obstacles persistants à l'accès à l'aide. La résistance islamique en Irak, qui regroupe les mouvements antiterroristes du pays, a annoncé que ses combattants avaient ciblé avec des drones l'aéroport Ben Gurion deux fois en une semaine. Dans un communiqué ce mercredi 20 mars, la résistance irakienne a confirmé l'attaque contre Israël en soutien au peuple palestinien à Gaza, dans un contexte de génocide en cours dans l'enclave palestinienne. Les combattants de la résistance irakienne, à l'aube d'aujourd'hui, mercredi 20 mars, ont ciblé avec des drones l'aéroport Ben Gurion, au plus profond de l'entité usurpatrice, indique le communiqué. La résistance a également souligné son engagement à frapper les bastions ennemis dans le cadre de la deuxième phase des opérations de soutien au peuple palestinien à Gaza. En réponse au massacre israélien contre des civils palestiniens innocents, la deuxième phase des opérations de la résistance irakienne a commencé, comprenant la mise en œuvre d'un blocus sur la navigation maritime israélienne en Méditerranée et la mise hors service des ports israéliens. Elle avait déjà mené une autre attaque de drone contre le même aéroport le 12 mars. En France, 6 millions d'agents de la fonction publique appelés à la grève. Enseignants, infirmiers, collectivités territoriales. La fonction publique en France est mobilisée pour de meilleurs salaires mardi 19 mars. Les fonctionnaires ont marché mardi à travers la France pour tenter d'obtenir au gouvernement des hausses de salaire malgré un contexte budgétaire contraint. L'événement s'est déroulé dans une rare unité intersyndicale suite à l'appel à la mobilisation adressée aux 5,7 millions d'agents publics. Son ampleur constitue un enjeu central pour les syndicats à 4 mois de Jeux olympiques et paralympiques, durant lesquels la CGT et FO ont déjà promis de déposer des préavis de grève. Outre une hausse des salaires, les manifestants s'alarment aussi du manque croissant de moyens, que ce soit dans l'enseignement ou l'hôpital public. Et le gouvernement nigérien appelle Washington à présenter un calendrier de retrait des troupes américaines du Niger. Les Américains devraient présenter un calendrier pour le retrait de leurs troupes au gouvernement du Niger, a déclaré une source gouvernementale à l'agence de presse russe Sputnik. Cette source souligne qu'après l'annulation de l'accord de coopération militaire avec les États-Unis, les forces américaines n'ont plus le droit d'effectuer aucun entraînement ni mouvement sur le territoire du Niger et que l'annulation de cet accord signifie l'interdiction de toutes leurs activités. Or, Sabrina Singh, porte-parole du Pentagone, en réponse aux prises de position par le gouvernement nigérien envers les forces américaines, a affirmé qu'il n'y avait pas de date limite pour le retrait des forces américaines du Niger. Le porte-parole du Pentagone a ajouté dans un communiqué « Nous avons pris connaissance de la déclaration du Niger sur la fin de la coopération militaire avec les États-Unis et de la présence militaire américaine dans ce pays. Elle s'est dite préoccupée par les relations entre le Niger, la Russie et l'Iran, soulignant que son pays tente d'obtenir des éclaircissements du Niger par la voie diplomatique. Samedi, le gouvernement nigérien a annulé un accord de coopération militaire avec les États-Unis qui remontait à 2012, au lendemain d'une visite de 3 jours de hauts responsables américains à Niamey. Le porte-parole du gouvernement nigérien a annoncé dans un communiqué. Le gouvernement du Niger, prenant en compte les souhaits et les intérêts du peuple, a décidé en toute responsabilité d'annuler immédiatement l'accord sur le statut du personnel militaire américain et ses employés civils sur le territoire du Niger. Voilà, ainsi s'achève le journal. Merci de l'avoir suivi. Restez à l'écoute du commentaire politique. L'essor de la production via la contribution du peuple. Slogan de l'année 1403 désigné par le leader de la révolution islamique. Le leader de la révolution islamique, l'ayatollah Sayyid Ali Khamenei, a désigné le nouvel an persan comme l'année de l'essor de la production via la contribution du peuple. Comme toutes les années précédentes, le leader de la révolution islamique a prononcé un discours à l'occasion de Nowruz, le nouvel an iranien, en passant en revue les événements phares de l'année passée et souhaitant succès et bénédiction pour le peuple iranien en cette nouvelle année 1403. Voici un extrait du message de l'ayatollah Sayyid Ali Khamenei. Au nom d'Allah, le très miséricordieux, le tout miséricordieux, ô toi qui fait évoluer les cœurs et les regards. Ô toi qui administre l'alternance du jour et de la nuit. Ô toi qui transforme les circonstances et les états d'âme. Change notre état en le meilleur des états. Je présente mes félicitations à toute la chère nation iranienne à l'occasion de la fête de Nowruz et du Nouvel An qui coïncide cette année avec le mois béni de Ramadan, ce printemps des cœurs et de la spiritualité. Je souhaite que la nation iranienne profite des deux printemps qu'elle connaît actuellement, à savoir le printemps de la nature et le printemps de la spiritualité. Jetons un coup d'œil sur l'année 1402, mars 2023, mars 2024, qui vient de se terminer, et jetons aussi un coup d'œil sur l'année dans laquelle nous venons juste d'entrer. L'année 1402, comme toutes les autres années de la vie, a été pleine de choses agréables et amères, d'événements désirés et non désirés. C'est dans la nature du monde et de la vie. À l'intérieur du pays, il y a eu d'importants progrès scientifiques, des avancées technologiques, des productions au niveau des infrastructures à travers tout le pays, qui ont été des événements agréables et de bonnes nouvelles. D'un autre côté, les problèmes économiques et de subsistance de la population figuraient parmi les questions amères. La participation remarquable du peuple au rassemblement de la journée d'Al-Rotz et du 22 Bahman, le déroulement sécurisé de ces grandes manifestations, la sécurité et le bon déroulement des élections de la fin de l'année et d'autres cas de participation du peuple comptent parmi les bonnes nouvelles et les événements agréables de l'année écoulée. L'incident amer de Kerman à l'occasion de l'anniversaire du martyr de Soleimani, les inondations au Baloutchistan à la fin de l'année, les incidents qu'ont connus les agents de la sécurité et les gardiens de la sécurité au cours de ces mois ont été des incidents amers. Et le plus amer a été la catastrophe de Gaza, qui est l'un de nos enjeux internationaux importants. Nous n'avons pas eu d'événement pire que celui de Gaza durant cette année. Dans le domaine des affaires étrangères, les relations internationales du gouvernement dans divers domaines économiques et politiques ont été des bonnes nouvelles et des événements favorables. Et les événements de Gaza, comme je viens de le mentionner, ont été les événements les plus amers, voire l'événement le plus amer sur le plan de nos affaires étrangères. Nous demandons à Dieu Tout-Puissant de compenser ces événements amers, de continuer à donner en abondance de bonnes nouvelles à la nation iranienne et aux nations musulmanes, et d'offrir à l'Oumma islamique et à la nation iranienne ce qui est une source de bonté et de bénédiction pour elle.
bonjour à tous et bienvenue dans la capitale iranienne, Téhéran. Le sujet du jour, apparemment, après les troupes françaises au Niger, c'est au tour des Américains de devenir des persona non grata. C'est ce qu'il semble être apparu ces derniers temps, selon certaines déclarations. Nous allons voir ensemble, sous forme d'un reportage, la situation actuelle avec le Niger. Et par la suite, nous ferons venir nos deux invités pour discuter donc de la situation. Je propose donc maintenant le reportage.
Le Niger rompt sa coopération militaire avec les États-Unis. Le porte-parole du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, Amadou Abdrahman, a annoncé samedi 16 mars dans un communiqué que le Niger avait décidé de rompre sa coopération militaire avec les États-Unis. Le gouvernement du Niger, prenant en compte les aspirations et les intérêts de son peuple, décide en toute responsabilité de dénoncer avec effet immédiat l'accord relatif au statut du personnel militaire des États-Unis et des employés civils du département américain de la défense sur le territoire du Niger, indique le communiqué. Abdrahman a également annoncé rompre la coopération militaire avec les États-Unis, qualifiant l'accord imposé unilatéralement par Washington en 2012 d'injuste et d'illégal. Cette décision survient après une visite de 3 jours d'une délégation américaine menée par la secrétaire d'État adjointe aux affaires africaines, Molly Fee. Au cours de cette visite de 3 jours, l'américaine n'a pas pu rencontrer le chef de la junte, Abdrahman Tiani, selon une source gouvernementale nigérienne. L'arrivée de la délégation américaine n'a pas respecté les usages diplomatiques, a expliqué samedi Amadou Abdrahman, assurant que le gouvernement américain avait informé Niamey de façon unilatérale de sa date d'arrivée et de la composition de sa délégation. Washington avait déployé quelques 1000 militaires en Niger sous prétexte de lutter contre des organisations terroristes. Fin décembre 2023, le gouvernement nigérien a également rompu sa coopération militaire avec la France, lui ordonnant de retirer ses troupes du sol nigérien. La garde présidentielle du Niger a perpétré un coup d'État le 26 juillet 2023. Elle a arrêté et puis écarté Mohamed Bazoum du pouvoir, décrété la fermeture des frontières du pays et un couvre-feu sur le territoire. À la suite du coup d'État, le général de brigade, Abdurrahman Tiani, a pris la tête du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie.
Nous revoilà ensemble. Donc, tout d'abord, nous allons introduire nos deux invités pour ce débat. Premier invité étant M. Bernard Cornu. Bonjour, M. Bernard Cornu. Alors, militant notamment sur différentes questions, dont la question palestinienne aujourd'hui, c'est la question africaine. Bienvenue à vous.
Bonjour à vous. Je signale quand même que j'ai fait des missions au Mali et beaucoup aussi au Soudan. J'ai même tourné un film documentaire sur les problèmes de l'énergie au Soudan dans les années 86, il y a longtemps.
Merci pour cette spécification. Le deuxième état, vous le connaissez également, c'est M. Corneille, également expert en géopolitique. Il est souvent intervenu concernant les influences européennes occidentales en Afrique. M. Corneille, ravi de vous avoir avec nous aujourd'hui.
Ravi également, plaisir partagé, merci à vous.
Alors, M. Corneille, si vous le voulez bien, on va commencer par vous. Alors, il y a deux manières de voir cette info concernant le Niger. La première chose étant les élections qui se sont passées en Russie, qui a amené Poutine de nouveau vainqueur aux élections présidentielles. Les déclarations entre la Chine et la Russie concernant le fait que si l'OTAN se permettait d'attaquer officiellement l'Ukraine, donc la Russie, eh bien, la Chine se joindrait donc au conflit. Et il y a donc l'Afrique, le continent africain, et que l'on sait est une mine d'or pour toutes les nouvelles technologies, toute l'industrie occidentale. Et l'influence africaine est très importante. Selon vous, comment vous voyez donc cette déclaration du Niger après la France ?
Alors, le Niger devient vraiment le front étendu des BRICS. C'est absolument évident. Et dans le contexte, justement, de la continuité intenable de ce qui a été globalement l'impérialisme mondialiste, c'est-à-dire historiquement anglo-américano-israélien, eh bien, nous avons un retournement du monde qui est en train de se passer depuis notamment l'élargissement des BRICS aux BRICS plus, notamment à partir du Moyen-Orient. C'est comme si nous assistions à des printemps arabes inversés. C'est-à-dire que durant les printemps arabes, nous avions une traînée de poudre qui devait s'étendre à l'intégralité du pourtour méditerranéen côté Afrique, puis après à la bande sahélo-saharienne. Et là, donc, nous avions vu à cette époque-là combien le terrorisme téléguidé entend en réalité que combattant proxy, combattant par procuration pour le compte des anglo-américano-israéliens, ceci avait pour but notamment de sortir la France de cette zone-là et de maintenir une zone d'instabilité locale. Alors que la réaction des BRICS, depuis surtout septembre 2015, c'est-à-dire l'intervention russe au soutien de l'Iran et de la Syrie et du Hezbollah, nous avons eu une sorte de printemps arabe inversé qui fait tache d'huile. Le Moyen-Orient vient d'être retourné dans le sens des BRICS, devenu donc BRICS+, et par extension, les mêmes lignes de faille contaminent le reste de l'Afrique du Nord, de la bonne façon cette fois, et par exact mimétisme à l'ancienne contamination mauvaise par le djihadisme en tant qu'outil des changements de régime anglo-américano-israélien dans cette zone-là. Et au passage, la France qui ne comprend pas ces choses-là, malheureusement, va se retrouver évidemment broyée parce qu'aujourd'hui, la France est détournée dans le sens des intérêts anglo-américano-israéliens. Et c'est évidemment ce qui, à moi, me pose un plus grand problème. Parce que sinon, cette évolution est vraiment positive.
Voilà, oui, c'est ce que vous avez souvent dit sur nos plateaux, c'est le fait que la France finalement est piégée dans ses plans occidentaux reliés par les États-Unis, parce que c'était pas comme ça qu'ils voyaient la France-Afrique, c'est pas comme ça que qu'ils voyaient leur avenir en Afrique sur du long terme, et pourtant ils sont maintenant piégés. C'est souvent ce que vous avez indiqué avec nous sur ce plateau. Monsieur Bernard Cornu, alors il y avait un reporter qui avait écrit un livre sur l'influence du terrorisme donc au Mali, puisque certaines écoles, du fait que le nord du Mali n'avait pas du tout d'école, d'infrastructure scolaire, il y a eu des influences par le biais de donations pour créer des écoles qui ont finalement créé des djihadistes. Et certains disent que tout a commencé également avec la guerre de la Libye, comme vient de le dire M. Corneille. C'est l'inverse du printemps arabe. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce qu'on est en train de voir finalement la situation qui a été installée par la Libye commencer à rebasculer vers ce qu'aurait été finalement le Niger ou le Burkina Faso ou le Mali sans ce printemps arabe?
Oui, bonjour. Il se trouve que j'ai des amis qui allaient très souvent au Niger. Ils y passaient tout l'hiver d'ailleurs. Dans les années, la fin des années 70, ils sont restés longtemps. Ils avaient une maison, ils étaient très intégrés. L'un était journaliste et a aidé les Nigériens à créer un journal, à transcrire la langue locale, à créer des écoles. Et donc, il me racontait beaucoup ce qui s'est passé à la fin des années 70, au moment de la hausse du pétrole. Beaucoup de riches arabes de la péninsule arabique sont venus chasser et la gazelle, aussi chercher des belles filles. Et tout ceci a commencé à développer des mafias. Une autre raison qui est aussi très ancienne sur les trafics, le développement des mafias et du djihadisme, qui pour moi, c'est beaucoup plus un phénomène de mafia qu'un phénomène religieux. D'ailleurs, le chef de Boko Haram, il a été vu complètement ivre par une amie journaliste qui l'interviewait. Donc, l'autre phénomène, c'est la contrebande des carburants. Parce qu'en Algérie, au Soudan, en Libye, les carburants sont très peu chers, peu taxés, l'ordre de 1/6 de dollar le litre. Et dans tous les pays du Sahel, il dépasse 1 dollar ou même 1 euro, 1 euro 10. Et donc, il y a depuis très longtemps une contrebande qu'on peut observer à toutes les frontières de gens qui traversent avec des bidons, avec des citernes de carburant. Et donc, cette contrebande si facile, si évidente, développe des mafias de la corruption. Et la corruption remonte très souvent jusqu'au niveau de la police, des douanes, des ministères. Et ceci a entraîné le djihadisme, parce qu'une fois qu'il y a une contrebande de carburant, vient aussi après la contrebande des armes, la contrebande des drogues, la contrebande des migrants. Et tout ceci est ainsi un phénomène qui détruit la société, qui fait qu'il y a des mafias, et cela remonte très loin. Et la coopération française ou américaine aurait dû se concentrer sur ce phénomène-là, aider les différents États à combattre ces mafias, à rationaliser les prix des carburants dans toute la région. Les carburants sont faits essentiels dans ces régions de désert où, pour pouvoir développer une économie, il faut pouvoir se déplacer avec des tout-terrains, avec des motos, comme on le voit, des mobylettes. Et donc, tout cela nécessite des carburants qui sont essentiels à la vie. Or, cette contrebande, détruit le système économique et social de ces pays par le biais de la corruption. Voilà le phénomène essentiel qui fait que, comme les Français sont intervenus militairement avec des moyens, des hélicoptères, des avions, des véhicules, alors qu'en fait il fallait développer le contrôle des frontières et développer des politiques fiscales cohérentes dans toute la région, entre l'Algérie, le Nigeria et le Sahel, voilà, toute cette coopération n'a pas servi à grand-chose, et donc il est normal que les États du Sahel se débarrasse de la France, des militaires français et des militaires américains.
Enfin, vous semblez dire que ce soit presque un accident, Monsieur Bernard Cornu, que la situation des pays du Sahel soit comme ça, au vu du fait que ça fait plus de 10 ans que la France, comme vous l'avez dit, ont influencé directement la junte militaire là-bas. Pourtant, beaucoup de spécialistes disent que ce n'est pas un accident, que ça a été voulu, que finalement les frontières ne soient pas sécurisées, que le plan d'Alger ne soit pas réalisé, puisque l'Algérie avait proposé, a injecté 100 millions de dollars afin, parce qu'ils ont exprimé le fait que s'il y avait du tourisme, parce qu'il n'y avait pas de travail, parce qu'il n'y avait pas d'infrastructure, parce qu'il n'y avait pas de développement, et que si on devait développer la région, automatiquement le tourisme s'arrêterait. Son plan n'a pas du tout été suivi, alors que c'est quand même un pays frontalier qui a toujours eu des relations avec le Sahel d'un point de vue économique, d'un point de vue même diplomatique et culturel. Monsieur Corneille, qu'est-ce que vous pensez des propos tenus par Monsieur Bernard Cornu sur le fait que la France n'a pas pu? Est-ce que vous trouvez que finalement c'était un jeu qui a mal tourné pour la France et les Américains à l'heure actuelle sur le Sahel?
Alors la France avant tout a été utilisée de façon perverse par les anglo-américano-israéliens pour se discréditer et pour s'épuiser avant d'être évincée. Ça c'est leur stratégie dans le contexte des printemps arabes, mais c'est leur stratégie également depuis globalement 1991. C'est-à-dire que avant globalement la chute de l'URSS, il y avait tout de même eu une entente entre la France et les États-Unis pour que la France veille à limiter les pénétrations communistes dans l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Ouest. Sauf qu'en réalité, c'était déjà arrivé après une tentative anglo-américaine de détruire la présence française en Afrique. C'était la raison historique de la France-Afrique, c'est-à-dire que la France-Afrique protégeait à l'époque toute cette partie de l'Afrique contre les combattants asymétriques, irréguliers, importés, comme d'habitude, par les anglo-américano-israéliens dans des contextes de... Enfin, dans à chaque fois, la... c'était le mode opératoire de la destruction des États stables, notamment du Zaïre, actuel RDC, tel que toujours utilisé par les mêmes, en fait. Ce sont toujours les mêmes méthodes internationalistes utilisées depuis 5 siècles. Et là où Monsieur Cornu a totalement raison, évidemment, c'est qu'il y a, en fait, c'était le magistrat Jean de Maillard en France qui avait parlé d'économie trafiquante, c'est-à-dire que la mondialisation a entraîné tout un cortège d'intérêts collusionnés pour détruire les États. Pourquoi ? Parce que les États sont normalement les structures de protection du peuple qui empêchent justement ce type de trafic, c'est-à-dire qu'il y a une union au sein de cette économie trafiquante en tant que concept. Qu'est-ce que sont, vous m'entendez ?
Oui, tout à fait.
Ok. Il y avait donc ce concept d'économie trafiquante, c'était l'intégration de l'illégalité et de la criminalité comme un moyen de faciliter les échanges, mais au détriment des États et donc des peuples. C'est-à-dire que la recherche de plus-value et de rente, sans utilité générale, sans intérêt général, permettait à certaines castes trafiquantes de s'enrichir, et notamment aux banques occidentales, spécialement anglo-américaines, mais parfois aussi françaises, clairement, mais indépendamment des États. Ceci en détruisant les structures des États et donc le bien-être des peuples. Avec en plus la pression, par exemple, en Côte d'Ivoire, des institutions financières éminemment états-uniennes ou anglo-américaines comme le FMI, pour imposer à des pays qui tenaient debout, par exemple la Côte d'Ivoire, la vitrine de la présence française en Afrique du Nord, un pays qui tenait tout à fait debout, Eh bien, la Côte d'Ivoire a subi des déstabilisations qui ont fait que, en fait, on détruit tous les états stables, de façon à créer une grande zone d'instabilité dans laquelle on peut facilement diviser pour mieux régner.
Et aussi, mais donc, faire en sorte que les matières premières n'augmentent pas.
Pardon.
Faire en sorte aussi que les matières premières n'augmentent, parce que vous avez parlé des banques, donc forcément on pense à la Banque de Londres qui propose elle-même donc les prix des matières premières africaines.
Tout à fait, ce qui est anormal, et également à Chicago, c'est-à-dire qu'a été organisé ce que l'on a appelé la dégradation, pudiquement la dégradation des termes de l'échange, c'est-à-dire une pression artificielle contre les prix des matières premières, afin de déstabiliser les budgets de ces pays africains. C'est de la macroéconomie, mais contrôlée de façon perverse, afin de créer, en fait, toujours pareil, des États dépendants, des États qui sont réduits, en fait, à des opérateurs devant mendier le cours. En fait, c'est la fluctuation des années 70, la fluctuation du dollar, parce que ces matières sont libellées en dollars. La fluctuation également, la dégradation des termes de l'échange, plus les taux d'intérêt. Ce sont des jeux qui sont contrôlés depuis la City et Wall Street, mais qui ont abouti à cette grande zone d'instabilité. Et face à cela, les BRICS Plus aujourd'hui, depuis des années, Poutine voulait des taux d'échange fixes afin que l'on puisse budgétiser sur le long terme des budgets d'État prévisionnels basés sur la potentialité de faire des investissements d'un côté sans se retrouver ruiné de l'autre, évidemment. Eh bien, c'est l'exact inverse de ce qui a été imposé depuis longtemps à tous les pays émergents ou du tiers-monde, d'Amérique du Sud, d'Amérique centrale, d'Afrique notamment, par, encore une fois, les banques anglo-américaines. C'est le mondialisme, en tant qu'idéologie, n'est que basé sur la famine au sein de l'abondance, la prédation financière. Nous avons vraiment deux façons de voir le monde qui s'affrontent sous nos yeux.
Merci,
et de fait, c'est une bonne chose.
Merci, Monsieur Corneille. Monsieur Bernard Cornu, je reviens vers vous. Donc, c'est vrai, vous avez parlé donc des routes qui ont été utilisées par donc les brigands, par les mafias, comme vous l'avez indiqué vous-même, pour faire leur trafic. Et d'ailleurs, ça a été l'un des premiers messages donnés par le Burkina Faso, prendre les jeeps militaires et s'en aller sur les routes pour les sécuriser. Et à l'heure actuelle, on sait que le Mali, le Burkina Faso et le Niger essaient de trouver des solutions afin que les routes de leur pays puissent être sécurisées, afin que les marchandises puissent arriver de manière sécurisée. C'est d'ailleurs le projet sur toute l'Union africaine, sur toute l'Afrique, que ce soit du Maghreb au sud de l'Afrique, de l'ouest à l'est. Il y a des très très gros projets sur les routes, les routes ferroviaires et même les aéroports, afin que l'Afrique de tout le continent puisse s'associer ensemble pour permettre les économies plus stables. Est-ce que vous pensez donc le Niger, malgré quand même, ils ont été beaucoup plus extrémistes que le Mali ou le Burkina Faso dans leur manière d'être, ils ont même été beaucoup plus fermés ces derniers mois. Est-ce que vous pensez qu'ils vont réussir en se mettant les Américains sur le dos, ils vont quand même réussir à garder un territoire stable et un pays stable, malgré l'influence positive que pourrait avoir le Burkina Faso ou encore le Mali?
Oui, le Niger est très enclavé au centre du Sahel, comme le Tchad aussi. Et les communications anciennes du temps décolonial étaient surtout orientées vers les côtes. Donc, il est important pour que l'économie se développe, que le commerce se développe, qu'on puisse exploiter les ressources locales, qui sont certains minerais, évidemment, l'uranium, l'or au Mali. Il faut qu'il y ait des communications faciles par des routes ou même par des chemins de fer qui sont un investissement de long terme sur lequel s'attache notamment la Chine, mais qui sont très importants. Et il faut aussi que les politiques de développement valorisent toutes les capacités locales, assurent des formations techniques de qualité qui puissent correspondre aux besoins des entreprises locales. Et donc, tout cet effort-là, il a été, à mon avis, mal entrepris par la coopération française et la coopération américaine. Je pourrais citer un exemple au Soudan, que j'ai vécu au Soudan, où le patron américain de l'USAID, de l'aide américaine officielle, avait un groupe électrogène dans son jardin pour de la climatisation, et ses fenêtres étaient ouvertes dans son bureau. Je l'ai vu moi-même. Et au Mali, par exemple, où je n'ai passé qu'une semaine d'expertise sur la maîtrise de l'énergie, à la fin, le responsable malien m'a dit: Monsieur Cornu, félicitations, vous connaissez mieux les problèmes de notre système que EDF, qui est là depuis 20 ou 30 ans. Donc, vous voyez, c'est la connaissance pratique des conditions de développement, des possibilités de développement dans cette région est très importante. Vous avez cité les accords d'Alger qui visaient à pacifier la région, mais il y avait des composantes intéressantes sur les politiques de régionalisation, d'autonomie partielle des populations, mais l'essentiel pour moi, c'était le contrôle des frontières et surtout la coordination des politiques fiscales sur les énergies afin que la tentation d'opérer des contrebandes sur les carburants cesse assez rapidement une fois que cette coordination des politiques fiscales sur les carburants était établie. C'est-à-dire que l'Algérie devait augmenter ses prix et les pays du Sahel devaient pouvoir baisser leurs prix pour qu'il y ait une convergence des prix et que la contrebande ne soit plus une tentation.
Merci, Monsieur Cornu. Alors, Monsieur Corneille, on sait que certains spécialistes disent que les experts disent que le Niger, le Mali et le Burkina Faso jouent leurs cartes. Est-ce que vous pensez, de manière optimiste, au vu de la situation, qu'ils vont y arriver, qu'ils vont réussir à être indépendants et à pouvoir faire en sorte que leurs frontières et leurs économies puissent quand même être lancées et donc que finalement la population puisse recommencer à vivre ? Parce que c'est ça l'enjeu.
Alors, ils y arriveront de toute façon en ciblant les influences extérieures qui, historiquement, ont été des influences prédatrices. Par contre, ils vont, du coup, revenir faire face à nouveau à tous les problèmes traditionnels africains. C'est-à-dire que, d'une part, il y a toujours des rivalités intérieures et des instabilités au sein de leur population. Et les rivalités, en fait, tous les pays qui s'opposent globalement au mondialisme subissent les mêmes déstabilisations. Mais nous avons clairement une lutte globalement de la disharmonie contre un certain retour à l'harmonie. Ce n'est pas ce qui va permettre de résoudre tous les problèmes du jour au lendemain, mais disons que cela y contribue. Et ce que dit Bernard Cornu est vraiment crucial. C'est-à-dire que il faut assécher le marais des crocodiles, en fait. C'est-à-dire que quand on fait en sorte justement de limiter les raisons de la contrebande, c'est comme ça qu'on vainc la contrebande. Mais c'est aussi par une restauration de l'État. Et le problème, c'est que les Africains ont beaucoup de mal avec le sens de l'État. C'est-à-dire qu'il y a vraiment beaucoup de disparités au sein des populations africaines qui font que ça reste des États fragiles. Et ces États seront de toute façon l'objet d'un enjeu. L'influence américaine va juste être remplacée par une influence russo-chinoise, mais ce ne sont pas pour autant des enfants de cœur. Par contre, la grande différence, c'est qu'en effet, les russo-chinois veulent un ordre financier économique qui soit plus sain et viable parce que, par opposition à ce mondialisme, en fait, qui a besoin d'instabilité pour toujours maximiser les potentialités de spéculation. Donc, globalement, les petits trafics ne sont que les petites mains parce que les petites mains se livrent à ces trafics-là. Mais le vrai sujet serait le blanchiment d'argent ou les trafics, les contrebandes de matières premières stratégiques. Et là-dedans, ce sont vraiment les Russo-Chinois qui vont mettre de l'ordre là-dedans. De là à dire qu'ils le font uniquement par altruisme, je n'irai pas jusque-là, mais ça reste une évolution saine qui pourtant ne sera pas la solution de tous les problèmes, mais en est un des aspects cruciaux. C'est le début de la solution à tous les problèmes, en effet.
Merci, Monsieur Corneille. Merci, Monsieur Bernard Cornu. Vous aurez compris, c'est la fin de notre débat. Je vous remercie d'avoir accepté notre invitation pour ce sujet concernant donc l'Afrique, le continent africain et surtout le Sahel, et notamment ici en particulier la situation du Niger. Nous, on vous se dit au revoir et à bientôt pour un autre sujet du débat. Nous présentons de nouveau nos condoléances comme depuis le 7 octobre aux Palestiniens qui continuent à subir le génocide à Gaza et en Cisjordanie. Nous accompagnons de notre pensée donc toutes ces familles victimes de ce génocide. Nous vous disons donc au revoir, à bientôt, ici sur la chaîne Presse TV. Au revoir.
Bien chers amis auditeurs, merci d'être avec nous pour un autre programme portant sur l'actualité de l'Asie de l'Ouest. Restez avec nous jusqu'à la fin de ce programme. L'organisation Médecins sans frontières et le mouvement Hamas ont rejeté les allégations de l'armée israélienne, justifiant l'assaut contre l'hôpital Al-Shifa au centre de la bande de Gaza. Médecins sans frontières a annoncé mardi 19 mars être extrêmement préoccupé par la santé des patients et du personnel médical coincés dans le complexe hospitalier d'Al-Shifa, au centre de Gaza. Cette organisation a demandé au régime israélien de respecter les lois et l'espace de l'hôpital et de garantir la santé du personnel médical, des patients et des civils. Médecins sans frontières a confirmé que l'armée du régime israélien a attaqué l'hôpital Al-Shifa et procédé à des arrestations massives dans les zones autour de l'hôpital, ajoutant qu'ils avaient perdu la communication avec l'un de leurs employés. Ces révélations de Médecins sans frontières sont une réaction aux allégations de l'armée israélienne selon lesquelles elle aurait tué plus de 50 terroristes et arrêté 180 suspects lors de l'incursion contre cet hôpital. En réponse aux allégations de l'armée du régime sioniste pour justifier l'attaque contre le complexe hospitalier d'Al-Shifa dans la bande de Gaza, le mouvement de résistance palestinien Hamas a déclaré que des dizaines de personnes avaient été tuées dans ces attaques. Il a estimé que l'objectif de ces attaques était de dissimuler les défaites de l'armée d'occupation. Le Hamas a souligné que l'armée du régime israélien n'avait atteint aucun de ses objectifs militaires déclarés, à l'exception de la poursuite du massacre des civils. Cette semaine, l'armée du régime sioniste a de nouveau attaqué l'hôpital Al-Shifa, prétendant qu'un certain nombre de dirigeants et commandants de la résistance palestinienne étaient présents dans cet hôpital. Une allégation qui n'a eu d'autre résultat que le massacre des civils, éclaboussant de plus en plus les occupants israéliens. L'autorité autonome palestinienne a annoncé mardi 19 mars dans un communiqué que l'armée israélienne avait pratiquement commencé la destruction de Rafah au sud de la bande de Gaza, sans l'annoncer officiellement. Le ministère des Affaires étrangères de l'autorité autonome a déclaré dans son communiqué qu'Israël avait détruit les maisons d'un certain nombre de citoyens palestiniens à Rafah, suite à quoi des dizaines de personnes ont été tuées, blessées et portées disparues sous les décombres. Rafah est une zone dans l'extrême sud de la bande de Gaza, où vivent environ 1,5 million de Palestiniens, en particulier des réfugiés. Et les pays du monde ont mis en garde contre les conséquences de toute attaque dans cette zone. Le ministère des Affaires étrangères de l'autorité autonome a fermement condamné les bombardements barbares et sanglants contre la population de Gaza, bombardements qui se sont multipliés quotidiennement et de manière démentielle ces derniers jours et se sont concentrés mardi dans la région de Rafah. Ce ministère a considéré l'intensification des bombardements sanglants à Rafah comme un sérieux prélude à l'expansion des crimes des occupants dans cette région, soulignant que malgré la présence de plus d'un million de réfugiés palestiniens, Israël ignorait leurs conditions de vie et se moquait des exigences internationales pour protéger les civils et répondre à leurs besoins humanitaires. Le bureau du premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a récemment annoncé que ce dernier avait approuvé les plans d'attaque de Rafah, sans pour autant fournir plus de détails sur ses projets. Le ministère des Affaires étrangères de l'autorité autonome palestinienne a en outre souligné que l'escalade des tensions israéliennes, qui inclut désormais la région de Rafah, coïncidait avec la tournée du secrétaire d'État américain Anthony Blinken, qui a lui-même récemment averti qu'Israël n'avait pas un plan sérieux pour protéger les civils. En fin de compte, le ministère a ajouté que l'armée israélienne avait commencé la destruction quotidienne et planifiée de Rafah en attaquant régulièrement les maisons, en les bombardant, en tuant et blessant les citoyens palestiniens. Pour ce faire, Israël n'a pas attendu la permission de qui que ce soit, et afin d'éviter les réactions internationales, il ne l'a pas annoncé publiquement, conclut le rapport de l'autorité autonome palestinienne. La guerre de Gaza paralyse les centres psychiatriques du régime sioniste. Les médias israéliens affirment que le nombre élevé de soldats ayant sollicité des services psychiatriques après leur retour de la guerre à Gaza a paralysé les centres médicaux israéliens. Les médias israéliens ont rapporté que les soldats réservistes de l'armée du régime sont obligés d'attendre environ 2 mois pour recevoir un traitement de santé mentale en raison d'une longue liste d'attentes. Le journal israélien Israel Hayom a déclaré que les combattants réservistes qui se sont récemment tournés vers le centre de traumatologie et de résilience natale ont été informés qu'ils devraient attendre entre 1 à 2 mois pour voir un thérapeute. Le temps d'attente prolongé pour obtenir une assistance en santé mentale parmi les soldats réservistes de l'armée israélienne est attribué au nombre croissant de demandes de soldats démobilisés, cherchant un traitement pour un traumatisme et un syndrome de stress post-traumatique, comme le rapporte le journal. Israel Hayom souligne dans son rapport qu'un tel phénomène était sans précédent dans les guerres et opérations précédentes, et que des événements survenus dans la guerre de Gaza n'avait pas non plus d'antécédent dans les guerres précédentes. Le journal a également souligné que plus de 300 000 réservistes ont été enrôlés et qu'un nombre important d'entre eux recherchent un traitement de santé mentale à la fin de leur service. En outre, il précise qu'immédiatement après le déclenchement de la guerre, des équipes ont été mises en place pour répondre aux interventions liées au combat, stationnées à proximité des champs de bataille, avec plus de 3 000 soldats passant par ces équipes depuis le début de la guerre. En outre, indique Israel Hayom, un centre de rééducation arrière a été créé, servant de centre de thérapie intensif et prolongé pour les soldats aux prises avec des symptômes post-traumatiques importants. Selon le journal, environ 1 300 militaires ont été soignés dans cet établissement. Les médias israéliens avaient précédemment rapporté que les commandants de guerre craignaient que les soldats de ce régime soient aux prises avec des problèmes psychologiques après la guerre, en particulier des troubles post-traumatiques. Début février, la télévision israélienne avait annoncé qu'environ 3 000 soldats s'étaient rendus dans des centres médicaux depuis le début de la guerre à Gaza pour recevoir des services de psychothérapie. Le mouvement Ansar Allah du Yémen a réagi à la condamnation de ses opérations dans les mers Rouges et d'Oman par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Le ministère des Affaires étrangères du mouvement du salut national du Yémen, lié à Ansar Allah, a exprimé mardi 19 mars son vif mécontentement et sa condamnation de la déclaration du Conseil de sécurité sur les incidents dans la mer Rouge et la mer d'Oman. Le ministère a annoncé dans un communiqué que la déclaration du Conseil de sécurité reflétait sa dangereuse dépendance à l'égard des tendances criminelles des États-Unis. Elle montre également le suivisme aveugle des positions des États-Unis en soutien aux massacres barbares et aux actes de génocide du régime israélien contre les civils à Gaza, dénonce le communiqué. Le ministère a souligné que la position du Conseil de sécurité violait toutes les lois, la légitimité, la morale et les valeurs humaines communes et mettait en danger la mission pour laquelle ce Conseil a été créé. Il est dommage que le Conseil de sécurité n'ait pas été en mesure de faire une déclaration depuis près de 200 jours en condamnation des massacres quotidiens perpétrés par la machine criminelle sioniste contre les enfants et les femmes de Gaza, les destructions généralisées, le siège et la politique visant à affamer le peuple palestinien. Ce qui est une honte sur le front de l'humanité, poursuit le communiqué. Force est de constater que le Conseil de sécurité s'est précipité pour condamner les opérations de Sana'a, qui sont menées en soutien aux lois et valeurs humaines et dont le but est de faire pression pour obtenir une cessation de l'agression israélienne, lever le siège, mettre fin à la faim et couper court aux crimes de guerre contre la population de Gaza. Voilà, ainsi s'achève ce programme. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous la semaine prochaine.